de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie continue à soutenir la lutte palestinienne. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a assisté à la réunion de l'OSI pour discuter de l'agression israélienne en Palestine. Le pape craint que le conflit israélo-palestinien tue de nombreuses personnes. Les Philippines étouffent l'incendie de 5 heures dans l'hôpital traitant des patients COVID-19. La Malaisie rapporte le nombre de morts quotidiens le plus élevé de COVID-19. Les citoyens chinois de la nuit se démènent pour un vaccin après des cas sporadiques de COVID. Le pape François condamne les combats d'Israël et du Hamas à Gaza. Bon, chers auditeurs, voici le journal incomplet. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a souligné la position de l'Indonésie de continuer à soutenir la lutte palestinienne dans la réalisation de son indépendance de l'occupation israélienne. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse virtuelle sur les progrès de la réunion ministérielle extraordinaire du comité exécutif de l'Organisation pour la coopération islamique dimanche, a déclaré que la justice devait être créée pour le peuple palestinien. Dans les réunions au niveau ministériel avec les représentants des pays membres de l'OSI, l'Indonésie fournit activement une contribution substantielle afin que l'OSI puisse produire un véritable accord. Certaines des résolutions qui devraient être atteintes incluent des appels à la communauté internationale, en particulier au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, pour qu'elle prenne des mesures concrètes contre les actes de violence et les violations du droit international par Israël. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies échoue, l'Assemblée générale des Nations Unies devrait tenir une réunion d'urgence. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a assisté à la réunion ministérielle du comité exécutif de l'Organisation de coopération islamique, ou OCI, pour discuter de la question israélienne en Palestine. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse virtuelle à Jakarta dimanche dernier. La réunion s'est tenue virtuellement et a réuni 16 ministres et vice-ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, ainsi que des représentants d'autres pays de l'OCI. Au cours de la réunion, les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation actuelle en Palestine. La ministre Ratno a encouragé chaque État membre de l'organisation à utiliser leur influence respective afin que les actes de violence puissent être stoppés et que des efforts de désescalade et de cessez-le-feu puissent être entrepris immédiatement. Au cours de la réunion de l'OTI, plus de 150 personnes en Palestine sont mortes des suites de l'agression israélienne, y compris des femmes et des enfants. Le chef de l'Église catholique romaine du Vatican, le pape François, a déclaré que l'affrontement entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens à Jérusalem, qui a tué plus de 100 personnes, est un événement terrible et ne peut être justifié. Selon lui, cet affrontement a également le potentiel de s'aggraver et de causer plus de morts. Le pape François l'a dit, cité par l'AFP dimanche dernier. Pendant ce temps, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré qu'Israël et la Palestine devaient immédiatement arrêter les combats et reprendre les pourparlers avant les réunions d'urgence avec un certain nombre de pays de l'Union européenne cette semaine. Selon lui, l'affrontement a le potentiel de provoquer un événement inattendu qui doit être évité. Pendant ce temps, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a déclaré que sa partie coordonnerait et discuterait des mesures que l'Union européenne pourrait prendre pour mettre fin au affrontement entre Israël et la Palestine. Dimanche matin, les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie de 5 heures dans l'un des plus grands hôpitaux des Philippines qui traite également des patients atteints de COVID-19. L'incendie a forcé des dizaines de patients à être évacués de l'établissement de santé. Aucune victime n'a été signalée dans l'incendie de l'hôpital général philippin géré par le gouvernement dans la capitale Manila. L'incendie a été éteint à l'aube. Sa cause n'est pas connue. Sur Twitter, la vice-présidente philippine Leni Robredo a appelé les grandes entreprises à se joindre au déploiement d'équipements pour évacuer la fumée causée par l'incendie. Le ministère malaisien de la Santé, ou KKM, a signalé samedi 44 cas de décès comprenant 43 citoyens malaisiens et un non-citoyen, ce qui est le plus grand nombre de décès depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé le pays, a déclaré le directeur général de la santé de KKM, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dans un rapport quotidien à Kuala Lumpur samedi dernier. À ce jour, le nombre cumulé de décès dus à COVID-19 est de 1866. Il a déclaré que les nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 heures ont montré une légère augmentation jusqu'à 4140 cas ont été enregistrés samedi contre 4113 cas pendant la nuit, ce qui porte le nombre total de cas positifs à 466330. Nur Hisham a déclaré que les cas actifs de COVID-19 à travers le pays étaient désormais au nombre de 42135. Un total de 15 nouveaux groupes ont été signalés samedi, dont 8 groupes sur le lieu de travail, les religieux 4, l'éducation 2 et les groupes à haut risque 1. Les habitants de la province d'Anhui dans l'est de la Chine se sont démenés pour se faire vacciner après l'émergence de cas sporadiques de COVID-19 parmi la population locale au cours de la semaine dernière. Plus de 364100 doses du vaccin COVID-19 ont été distribuées à Hefei, la capitale de l'Anhui, selon le directeur adjoint de la Commission de la santé de Hefei, Zhang Xiaofeng, à la presse samedi dernier. Des publications vidéo sur les réseaux sociaux chinois montrent de longues files de personnes sous de fortes pluies pour se faire vacciner à l'hôpital universitaire médical d'Anhui. À Hefei, pas moins de 1031 personnes en contact étroit avec des cas positifs ont été mises en quarantaine et pas moins de 1028 personnes dont les résultats des tests PCR sont négatifs. Samedi soir, la province de Liaoning a enregistré 4 autres cas locaux et 5 cas asymptomatiques. Tous sont apparus dans la ville de Yingkou, qui depuis vendredi dernier fait l'objet d'une quarantaine régionale. Le pape François condamne les combats entre Israéliens et Palestiniens à Gaza. Il a qualifié la violence d'inacceptable et la mort des victimes, en particulier des enfants, était le signe qu'il ne voulait pas construire un avenir, mais voulait le détruire. Rapporté par Channel News Asia, lundi dernier, lors de la bénédiction de dimanche, le pape François a prié pour la paix, la tranquillité et l'assistance internationale pour ouvrir la voie au dialogue. Les frappes aériennes israéliennes frappent la ville de Gaza depuis des jours, alors que de violents combats ont éclaté entre Israël et le groupe du Hamas qui contrôle la zone. C'est le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Croissance économique de l'Indonésie au deuxième trimestre 2021 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Cher Jolitard, la croissance économique de l'Indonésie au deuxième trimestre de cette année entrera dans une voie positive. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Erlang Hartanto, lors d'une conférence de presse samedi 15 mai, a estimé que la croissance économique de l'Indonésie pourrait atteindre 7% cette année. Il a dit que la croissance des performances des exportations et des importations de l'Indonésie était revenue dans une direction positive. Les dépenses publiques ont également connu la même chose. Plusieurs secteurs tels que la communication de l'information, les services de santé, l'agriculture, l'immobilier et l'industrie ont connu des augmentations importantes. Cela est dû à l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de luxe qui est supportée par le gouvernement et d'autres politiques. Pendant ce temps, la Banque asiatique de développement, BAD, a prédit à la fin du mois dernier que la croissance économique de l'Indonésie en 2021 atteindrait 4,5%. On estime qu'il augmentera en 2022 à 5% au milieu de la reprise économique nationale et mondiale. La BAD, selon son directeur pour l'Indonésie, Winfried Wicklein, est optimiste quant au retour de l'Indonésie sur sa trajectoire de croissance l'année prochaine. Cela se réfère à la reprise continue des échanges, à la relance du secteur manufacturier et à un important budget national de reprise économique pour 2021. Cela peut être réalisé au fur et à mesure que le programme de vaccination contre la COVID-19 progresse et que de plus en plus de secteurs économiques reprennent leurs activités. En outre, les investissements devraient également augmenter parallèlement à l'amélioration des perspectives économiques. Malheureusement, le rythme de la reprise du financement ou du crédit sera probablement à la traîne, compte tenu de l'incertitude du sentiment des investisseurs. L'inflation, qui a atteint une moyenne de 1,6% l'an dernier, devrait passer à 2,4% en 2021. Ce taux d'inflation reste dans la fourchette cible de la Banque d'Indonésie en raison de pressions inflationnistes causées par la dépréciation de la monnaie et la hausse de la demande alimentaire. Bien entendu, cette estimation comporte des risques importants. La reprise économique peut ralentir s'il y a un pic dans les cas de COVID-19 pendant les vacances de l'Eid al-Fitr. D'après les nouvelles dans les médias, on peut voir que le gouvernement a fait des efforts pour interdire aux gens de retourner dans leur ville natale pour les vacances. Il s'agit de réduire le taux de propagation de COVID-19. Cependant, en réalité, il y a encore beaucoup de gens qui ont essayé par tous les moyens de respecter la tradition du retour à la maison pendant les vacances de l'Aïd al-Fitr. De plus, les retards dans les efforts de vaccination et la baisse de recettes publiques ont également eu un impact significatif sur la réalisation des prévisions de croissance économique au deuxième trimestre de cette année. Bonjour Joïtar, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Et on va commencer avec l'événement du 17 mai 1949, journée de la proclamation du Kalimantan. Chers amis, le 17 mai 1949 est connu comme le jour de la proclamation de Kalimantan. Cet incident est une proclamation qui déclare que Kalimantan est une partie inséparable de la République d'Indonésie. La proclamation de Kalimantan a été lue par le gouverneur de la marine indonésienne, division 4 de la défense de Kalimantan, le lieutenant-colonel Hassan Basri. Cette proclamation est une forme de réaction à l'accord de Linggarjati qui stipule que seul Java est le territoire de la République d'Indonésie. Chers amis, on continue avec l'événement du 17 mai 1950. L'Association des éditeurs indonésiens, ICAPI, a été fondée. Chers amis, l'Association des éditeurs indonésiens, ICAPI, a été fondée le 17 mai 1950 à l'initiative et avec l'accord de plusieurs éditeurs nationaux. La création de l'ICAPI faisait partie de la résistance contre les éditeurs étrangers, en particulier ceux appartenant au gouvernement néerlandais des Indes orientales, qui monopolisait l'édition de livres dans le pays. ICAPI a également été formé avec le désir des éditeurs nationaux d'aider le gouvernement à construire une société indonésienne intelligente. Depuis 2002, la création de l'ICAPI est commémorée en tant que journée nationale du livre. Chers amis, on finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 mai 1983, signature de l'accord. Le traité du 17 mai 1983 est un accord signé entre le Liban et Israël pendant la guerre civile libanaise le 17 mai 1983, après l'invasion du Liban et le siège de Beyrouth par Israël en 1982. Il appelle au retrait des forces de défense israéliennes ou des forces de défense israéliennes de Beyrouth et fournit un cadre pour Israël. L'établissement de relations bilatérales normales entre les deux pays, le Liban était sous occupation militaire israélienne et syrienne pendant les négociations. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
There's nothing left today. What happened like you say? An ending like this way.
Berat saat harus berjalan tanpa dirimu. Hampa ku rasa. Sama.
What happened like you say? An ending like this way.
Takkan mungkin lagi, tak mungkin lagi memiliki dirimu kini. Takdir memilih kita takkan bersatu. Tapi harus kamu sadari benar, ku merindukan kamu kasih. Karena pas sedetik pun ku menghapusnya.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, la croissance économique nationale mène positivement. La croissance économique nationale est déjà sur la bonne voie et se dirige vers une croissance positive. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie au Kadin d'Indonésie pour le développement des entrepreneurs nationaux, Arshad Rashid, dans sa déclaration à Jakarta mercredi le 12 mai. Selon Arshad, la croissance du produit intérieur brut PIB au premier trimestre de 2021, qui était de moins de 0,74% sur une base annuelle devrait être reconnaissante car elle a été réalisée au milieu de la pandémie qui frappe toujours l'Indonésie. Selon lui, la moindre contraction au premier trimestre de 2021 montre des signes de reprise économique de plus en plus réels et se dirige dans une direction positive. Sur la base des données de l'Agence centrale de statistiques, BPS, au premier trimestre de 2021, le PIB national était toujours de moins 0,74% sur une base annuelle en amélioration par rapport au quatrième trimestre de 2020, qui était de moins 2,19%. Un autre facteur positif a été qu'un certain nombre de secteurs d'activité ont connu une croissance positive, à savoir l'information et la communication de 8,72%, l'approvisionnement en eau, la gestion des ordures, des déchets et des recyclages de 5,49%, et les services de santé et les activités sociales de 3,64%. Arshad est optimiste qu'au deuxième trimestre de 2021, la croissance économique sera plus expansive avec des estimations initiales comprises entre 5,0-7,0% sur une base annuelle. Ceci est conforme à la mise en œuvre de plus en plus massive de la vaccination contre la COVID-19, à la fois par le gouvernement et Kadin. Il a expliqué que Kadin devrait lancer en mai 2021 un programme de vaccination de gotong royong pour les travailleurs et leurs familles. Les vaccins de gotong royong se distinguent des vaccins utilisés dans les programmes gouvernementaux. Ceci est basé sur le règlement du ministre de la Santé numéro 10 de 2021 concernant la mise en œuvre des vaccinations dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les vaccins que Kadin utilisera dans le cadre du programme de vaccination de gotong royong sont le vaccin Sinopharm de Chine et le vaccin Moderna des États-Unis. Auparavant, le 30 avril 2021, pas moins de 482,400 vaccins sous forme finie flacons de Sinopharm étaient arrivés en Indonésie via l'aéroport Soekarno-Hatta. Arshad a ajouté que l'optimisme pour la croissance économique est surtout soutenu par le programme de vaccination de gotong royong comme Game Changer. La vaccination est un facteur majeur de stimulation des activités économiques et sociales tout en mettant en œuvre des protocoles sanitaires stricts. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta,
Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix de Midi. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à voyager dans la grotte hollandaise dans la province de Java West. Le parc de la forêt Juanda ou Tahura est une forêt située non loin du centre-ville de Bandung, plus précisément dans la zone de Dago Atas. Tahura Juanda est à une altitude entre 800 et 1350 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire que l'air y est très froid. En plus de l'air frais, si vous vous rendez là-bas, vous pourrez également voir quelques vestiges de la période coloniale hollandaise et japonaise. L'une d'entre elles est la grotte hollandaise. Chers auditeurs, la grotte hollandaise n'est pas une grotte naturelle. Elle a été construite en creusant une colline de plus de 100 mètres. La construction de ce tunnel a été initialement lancée en 1912 pour servir de canalisation pour la distribution de l'eau de la rivière Cikapundung qui coule pour la centrale de l'énergie hydroélectrique. Quelques années plus tard, la fonction de la grotte a été changée. La hauteur de la grotte a été augmentée pour atteindre 3 mètres et elle a été complétée par un réseau de 15 couloirs. Enfin, deux entrées supplémentaires ont été ouvertes mesurant 3,2 mètres haut. Tout ceci parce que cet endroit était stratégique et caché. Ensuite, avant que la Seconde Guerre mondiale touche l'Indonésie, à partir de 1941, les Néerlandais ont utilisé ce tunnel comme une forteresse ou une base militaire et comme zone de stockage de munitions. Lorsque l'armée japonaise a envahi l'Indonésie, les troupes hollandaises ont utilisé cette grotte comme centre de télécommunication militaire néerlandaise des Indes orientales. En plus de 15 salles existantes dans la grotte, vous pourrez aussi voir quelques pièces comme des chambres à coucher de l'armée néerlandaise. Ensuite, il y a aussi une cellule de prison et une salle d'interrogatoire pour les prisonniers. Il y a aussi d'autres sites intéressants que vous pourrez voir dans la grotte des Pays-Bas, comme l'ancien Ray, pour transporter des marchandises ou similaires qui s'étirent dans le couloir et l'ancienne salle de la station de radio et de télécommunication militaire néerlandaise des Indes néerlandaises. Le principal de la côte hollandaise est relié au site touristique de Maribaya. Là, vous pourrez admirer de beaux paysages naturels. Le tunnel de la côte néerlandaise permet de relier la zone de Dago et celle de Maribaya qui se trouve à Lembang. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Lembang était une forteresse hollandaise pour défendre la ville de Bandung contre les attaques de l'armée japonaise. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à visiter cette grotte, vous pouvez utiliser les transports publics ou les véhicules privés à partir du centre-ville de Bandung. Pour visiter la grotte des Pays-Bas, vous êtes tenu de payer 11 000 rupiah par personne à l'entrée située dans la zone de Tahura, parce que la grotte est située dans cette région. De l'entrée de Tahura, la distance n'est que d'environ 500 mètres, de sorte qu'il est plus amusant de marcher vers la grotte des Pays-Bas tout en profitant de la fraîcheur du parc de la forêt de Juanda. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel aujourd'hui intitulé La grotte hollandaise dans la province de Java West. À demain!
Kamu
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est sakit, sakit ou en français malade. Je vais vous donner une conversation dont le titre est « Berapa umur Anda ?» Je répète « Berapa umur Anda ?» signifie « Vous avez quel âge ?» C'est une conversation entre Kevin et le personnel de la réservation de la clinique. L'employé de la clinique a posé des questions sur l'âge du patient.
« Berapa umur Anda ?»
25 tahun.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Berapa umur Anda? Berapa umur Anda? Signifie vous avez quel âge? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Berapa? Berapa signifie quel ou combien. Umur. Umur signifie âge. Usia. Usia signifie âge. Umur Anda. Umur Anda signifie votre âge. Berapa umur Anda? Berapa umur Anda signifie vous avez quel âge? 25 tahun. 25 tahun signifie 25 ans. Berapa usia Anda? Berapa usia Anda signifie vous avez quel âge? Dans la conversation, vous entendez la question Berapa umur Anda? Je répète Berapa umur Anda signifie vous avez quel âge? Dans cette question, il y a un mot de question Berapa? Berapa signifie quel ou combien? Pour demander des nombres tels que la taille, la valeur, le prix, d'unité, le temps, le montant, y compris l'âge. Par exemple, Berapa usia Anda? Berapa usia Anda signifie vous avez quel âge ou quel âge avez-vous? Le mot usia, usia et umur, umur ont le même sens, c'est l'âge. Un autre exemple, écoutons un autre exemple de question pour demander l'âge de quelqu'un. Berapa usia Anda? Berapa usia Anda signifie vous avez quel âge? 25 tahun. 25 tahun signifie 25 ans. Usia Anda berapa? Usia Anda berapa signifie vous avez quel âge? Usia saya 25 tahun. Usia saya 25 tahun signifie j'ai 25 ans. Avant de terminer à apprendre la langue indonésienne aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Berapa umur Anda?
25 tahun.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre la langue indonésienne d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Serasa mati rasa. Kini tak lagi, kata mama juga jangan bimbang, itu menyakitkan. Kini ku tak lagi galau cukup.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson kroncong intitulée Meraih Rembulan, chantée par Diane Mita. Chers auditeurs, cette chanson, écrite par Coco Tolé, raconte l'histoire de la beauté de la lune qui semble proche mais loin et haute dans les nuages. Cette chanson implique également un message et un enthousiasme pour réaliser un rêve. Bien qu'élevé, il est possible de le réaliser. Cette chanson, Kroncong Meraih Rembulan, est arrangée avec de la musique kroncong moderne. Pour changer d'art, voici Diane Mita va chanter une chanson kroncong intitulée Meraih Rembulan. Bonne écoute!
Thank you.
hanya pada mimpinya. Selalu mengharap semoga rembulan tak tertutup awan. Rumput kecil merambat
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.